Un poète que l'on tient par la main au mois de septembre dernier à la fête de l'humanité, c'est une image triste et paradoxale car cet homme, toute sa vie, a cherché à montrer le chemin. Enfant naturel d'un préfet de police, élevé bourgeoisement à Neuilly, Louis Aragon commence à fréquenter les milieux littéraires grâce à son oncle. Le pape du surréalisme, André Breton, le trouve étincelant, malgré son désir de plaire et un goût de la subversion affiché comme une coquetterie. Ce qui ne l'empêchera pas de rapporter la croix de guerre du front en 14-18 et de s'évader des prisons nazies en 1939. Sous le signe de la révolte, il entre en poésie et en politique. Il appartient au mouvement surréaliste auquel il sera fidèle toute sa vie, ainsi qu'au communisme malgré tous les conflits historiques et à son amour pour Elsa Triolet, belle-sœur du poète soviétique Maïakovski.
Amour d'Elsa, décembre 40, les yeux d'Elsa. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils venir se mirer, s'y jeter à mourir tous les désespérés. Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire.
Il faut nous reporter à une autre époque. Hein. Nous étions au début du XXe siècle, sous la Troisième République radicale, et son père était un notable, il aurait même pu être président du Conseil, voire un jour président de la République, un franc-maçon, et c'est ami de Clémenceau, et il a fauté avec une Marguerite qui avait, fauté bien sûr je mets des guillemets, qui avait quelque chose comme 30 ans de moins, ou même plus, 30 ans de moins que lui, Faust et Marguerite. Et il était marié avec une Alsacienne, une dame Köchlin. Les Köchlin étaient des gros industriels alsaciens, protestants, rigoureux. Il avait des enfants. La loi à l'époque ne lui permettait même pas de reconnaître l'enfant. Donc on a bâti tout un scénario, même plusieurs scénarios, dans lesquels des prêtres, au moins un prêtre, a été mêlé. Car on n'a pas d'acte de naissance d'Aragon.
Il y a juste un acte de baptême.
On a un acte de baptême faux.
Qui est faux.
Qu'il fait apparaître comme l'enfant d'un couple qui voyageait en Espagne, qui a eu un accident. Enfin, je passe sur les détails.
Mais il est né où alors? Il est né à Paris? Il est né à Madrid?
C'est une question.
Officiellement, c'est Madrid.
À Madrid, certainement pas.
Ouais.
Ce qui est considéré comme exact jusqu'à ce jour, c'est qu'il est né à Paris, mais c'est assez étrange. Il serait né à Paris, sa mère aurait accouché revenant de province où elle était allée cacher sa grossesse, comme ça se faisait souvent à l'époque
dans la rue, hein, aux Invalides.
Sur la place des Invalides, il fallait naturellement qu'un tel homme naquît à côté du héros. Mais je crois que, en fait, sa mère avait été envoyée dans le Midi, où la famille maternelle possédait des terres, des cerisiers du côté de Toulon, et c'est probablement là-bas qu'il est né.
Ouais, à peine né. Vous penchez pour cette théorie-là, c'est Toulon.
Oui, je penche. Il y a différents indices. Je pense d'ailleurs que les généalogistes, à partir de la piste que j'ai ouverte, vont travailler avec leur professionnalisme et découvriront toute une série de choses, car il y a aussi des problèmes quant à son ascendance maternelle.
Ah oui.
Du côté italien, ouais. Un certain monsieur de Billion, qui paraît assez étrange, enfin. Voilà, naturellement, je le présente de façon plaisante. En réalité, dans la vie du jeune Aragon, ça a dû être quelque chose de très lourd, comme on dit aujourd'hui. On l'a contraint à prendre sa mère pour sa sœur,
ouais.
Son oncle pour son frère, etc. Enfin, c'est extrêmement compliqué.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçant l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient pour vous sans yeux le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avait écrit sous vos photos « Mort
pour la France.
Elle est morte le matin, un été différent. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
La question qui s'est posée à moi, c'est Aragon, dans cette situation invraisemblable, avec ce jeu de masques, ces imbroglios, presque vaudevillesques d'ailleurs, il aurait pu devenir un mauvais élève, un cancre, un délinquant, un petit révolté de rien du tout. Pas du tout.
Ouais.
Brillantissime élève, compagnon de classe de Henri de Monterland, auquel il récitait tout Racine à l'âge de 11 ans, brillant à tous égards et commençant à écrire, alors même qu'il ne savait pas encore écrire, il dictait à ses tantes les romans qu'il essayait de composer, oui, en cachette, étrange rapprochement, il écrivait sur le papier des cabinets. On lui retirait les crayons pour qu'il puisse jouer. Enfin, voilà, c'est un personnage, ça pose une question de fond. C'est-à-dire qu'à une situation lourde, complexe, il a réagi, et ce sera le cas tout au long des tragédies de sa vie, il a réagi par la création.
Ouais, c'est ça, vous montrez comment.
En inventant un monde imaginaire.
Ouais. Vous montrez comment cette situation familiale, qui en aurait rendu plus d'un complètement fou, commence à conditionner finalement son travail de
romancier. Oui, alors sans doute y a-t-il eu une souffrance profonde, dont nous ne savons à peu près rien.
Oui, parce qu'il faut expliquer, vous l'avez dit brièvement, il appelait son père parrain, il parlait de sa sœur pour sa mère, il y a cette fameuse grand-mère également.
Cette grand-mère qu'il détestait, qui était acariâtre, plus ou moins bigote, et très près de ses sous, et qu'il considérait comme sa mère. Enfin, mais il y avait une autre légende, c'était qu'il avait perdu ses parents et qu'il était orphelin. Enfin, tout ça se télescopait, et il n'a eu la révélation de la chose que dans une circonstance particulièrement dramatique. Il avait 20 ans, il avait fait des études de médecine, l'armée l'a engagé, nous sommes en 1918, il a eu un cours accéléré au Val-de-Grâce, il est médecin militaire, il s'embarque sur le quai de la gare de l'Est au moment des grandes offensives de Foch qui vont libérer la France et l'Alsace, et sa mère accourt, vous imaginez la scène, les soldats, les officiers qui montent au front, le canon tonnait à 120 km au nord, avec dans ces offensives qui étaient de véritables boucheries, le risque très grand de se faire tuer, sa mère arrive et lui dit, bien voilà, je suis ta mère et ton père c'est lui. Ce rapprochement, ce télescopage entre la mort et la vie, la révélation dans ce moment particulièrement dur de sa vie, nous n'en savons finalement rien d'autre que ce que je viens de dire.
Et comme vous le dites, on est dans un roman, c'est-à-dire
qu'on est dans un prodigieux roman.
1943, février, La Rose et le Réséda. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats. Lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle vive, et qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, du haut de la citadelle, la sentinelle tira par deux fois, et l'un chancelle, l'autre tombe, qui mourra? Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, ils sont en prison, lequel a le plus triste grabat, lequel plus que l'autre gèle, lequel préfère les rats. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, un rebelle est un rebelle, nos sanglots font un seul glas. Et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompa, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, il coule, et se mêle à la terre qu'il aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, l'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera, dites flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda.
Alors effectivement, ces origines complètement truquées qui pour lui, enfin dans son travail en tout cas, ça va devenir un petit peu une logique finalement de recherche familiale qu'on va retrouver dans ses livres.
Certainement, peu consciente, il faut le décrypter, et il ne faut pas non plus tout ramener à cela dans son œuvre.
Ouais.
On en trouve de nombreuses traces, dans les romans en particulier, dans un certain nombre de poèmes, du roman inachevé par exemple, mais qui est bien plus tardif, 1956. Je crois que le fond de la chose, c'est qu'Aragon a essayé de répliquer au tragique de la vie, ou au doute de la vie, par un monde, la construction d'un monde imaginaire, beaucoup plus beau, qui montre que les hommes peuvent devenir des êtres meilleurs, plus libres,
ouais,
heureux, pacifiés.
Ouais.
C'est ça toute sa recherche. C'est exactement la même démarche qu'il aura, toute différence faite bien sûr, dans les années 50, après les révélations sur le stalinisme,
ouais,
données par le rapport de Nikita Khrouchtchev, fameux rapport Khrouchtchev. Au lieu de s'effondrer dans une chose qui était particulièrement douloureuse pour lui, qui touchait à son identité profonde, il réagit par une salve de chef-d'œuvre. Et je crois que c'est le mécanisme, si je peux dire, ce mécanisme est un mot bien fort, c'est le processus profond d'où jaillit l'œuvre aragonienne.
Louis Aragon, poète, romancier, est sans aucun doute l'un des tout premiers écrivains du XXe siècle. Les chansons de Ferré, Ferrat, Brassens ont rendu ses vers populaires, mais elles ne devraient pas faire oublier son imposante œuvre de romancier du monde réel, des cloches de Bâle à Aurélien. Côté engagement, il a dominé la scène communiste à la direction des lettres françaises, et son influence à travers l'évolution du parti fut toujours considérable. L'interpénétration de son œuvre et de la politique, il l'expliquait ainsi.
La politique est un phénomène secondaire et non pas premier. Tout le monde sait que j'appartiens à un certain parti. Hein? Alors très souvent, les gens m'ont posé la question, qu'est-ce que vous êtes d'abord ? Écrivain ou bien machin chouette ? À quoi j'ai toujours répondu, écrivain. Et c'est vrai, ça a choqué. J'ai des camarades que ça choque énormément que je dise une chose pareille. Mais mes idées politiques proviennent du fait d'un homme défini par ce qu'il fait dans la vie, par le fait qu'il écrit. Et c'est parce que j'écris que je suis devenu ce que je suis devenu. Mais non pas le contraire.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, des armées incertains, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes, il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir, nous regarde passer. Répétant après moi ces mots que j'ai dressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent, il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare, il n'y a pas d'amour heureux.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin, eux qu'on retrouve au soir? Désœuvrés, incertains. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes, il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi, comme un oiseau blessé. Et cela sans savoir nous regarde passer, répétant après moi les mots que j'ai tressés, et qui pour tes grands yeux, tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas d'amour qui ne soit ta douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Et pas plus que de toi l'amour de la patrie. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs. Il n'y a pas d'amour heureux. Mais c'est notre amour, à tous les deux.
Parce qu'un autre aspect de l'œuvre d'Aragon et de sa vie, c'est la fraternité.
Ouais.
C'est-à-dire qu'Aragon, Ça a pas mal de gueule, Aragon, hein. C'est un homme qui ne lâchera jamais les siens, les pauvres, les humbles. Voilà cet homme qui est issu de la bourgeoisie. Du côté de son père, la grande bourgeoisie.
La grande bourgeoisie, ouais.
Du côté de sa mère, la moyenne bourgeoisie, mais aisée. Même si un grand-père encore... Encore un personnage de roman qui était sous-préfet, a déserté son poste, est allé à Istanbul, à Constantinople à l'époque, et a croqué le magot familial pour devenir une espèce de mafieux des jeux à Istanbul. Encore un personnage incroyable. Même s'il y a tout cela, Aragon est issu de la bourgeoisie, il a été élevé à Neuilly, dans les écoles catholiques, puis dans un des lycées les plus célèbres de Paris, payant à l'époque. Aragon est un bourgeois de formation.
Père, vous l'avez dit, c'est vraiment c'est la haute bourgeoisie, hein, protestante, voilà, famille d'industriels fortunés.
Du côté du père, catholique du côté de la mère. Ouais. C'était des choses qui se voyaient à l'époque. Jaurès lui-même, qui était, je dirais pas athée, mais presque, s'est vu reprocher d'avoir fait baptiser sa fille.
Ouais.
Mais c'était une autre époque, bien sûr. Aragon a voulu se porter du côté des hommes, des humiliés, des offensés, de ceux d'en bas. Et il leur est resté attaché tout le temps. Un des poèmes les plus émouvants qu'il a écrit dans les années 60, c'est « Ah, je suis bien votre pareil, ah, je suis bien pareil à vous ». Et il leur dit « On vous trompera, et les rêves, et vos rêves, les loups, n'en font qu'une bouchée. Mais je reste avec vous, moi aussi je continue à rêver au ciel bleu ».
En étant vu qui s'en allèrent, ils ne demandaient que du feu. Ils se contentaient de si peu, qu'ils avaient si peu de colère. J'entends leurs pas, j'entends leurs voix qui disent des choses banales, comme on en lit sur le journal, comme on en dit le soir chez soi. Ce qu'on fait de vous, homme, femme, aux pierres tendres tôt usées, et vos apparences brisées, vous regardez m'arrache l'âme. Les choses vont comme elles vont, de temps en temps la terre tremble. Le malheur au malheur ressemble, il est profond, profond, profond. Vous voudriez au ciel bleu croire, je le connais ce sentiment. J'y crois aussi moi par moments, comme l'alouette au miroir. J'y crois parfois, je vous l'avoue, à n'en pas croire mes oreilles. Ah, je suis bien votre pareil, ah, je suis bien pareil à vous. À vous, comme les grains de sable, comme le sang toujours versé, comme les doigts toujours blessés. Ah, oh, je suis bien votre semblable. J'aurais tant voulu vous aider, vous qui semblez autre moi-même. Mais les mots qu'au vent noir je sème, qui sait si vous les entendez. Tout se perd et rien ne vous touche, ni mes paroles, ni mes mains. Et vous passez votre chemin sans savoir ce que dit ma bouche. Votre enfer est pourtant le mien, nous vivons sous le même règne. Et lorsque vous saignez, je saigne, et je meurs dans vos mêmes liens. Quelle heure est-il? Quel temps fait-il? J'aurais tant aimé cependant gagner pour vous, pour moi perdant, avoir été peut-être utile. C'est un rêve modeste et fou, il aurait mieux valu le taire. Vous me mettrez avec en terre, comme une étoile au fond d'un trou.
Est-ce que vous pensez que cette enfance a conditionné aussi son engagement politique ?
Oui. Oui, parce qu'il arrive un moment où Aragon se révolte contre cette bourgeoisie et ses mensonges. Tout ce monde de mensonges dans lequel il a vécu, de paraître, de camouflage des situations réelles qui méprisent l'enfant, qui méprisent la femme, hein, et leurs droits, ça le révolte. Jusqu'à la fin de sa vie, même s'il décrit dans ses romans à merveille, aussi bien que Proust, les milieux bourgeois qu'il connaît si bien, jusqu'à la fin de sa vie, il aura une détestation de la bourgeoisie à cause de ses mensonges, de son hypocrisie. D'ailleurs, très curieusement, il lui oppose une probable, mais pas du tout certaine, encore au généalogiste de travailler, ascendance noble du côté de l'évêque Massillon, qui fut un prédicateur à l'époque de Louis XIV. La noblesse, elle, ça a de l'allure. La noblesse, elle a des valeurs. Mais la bourgeoisie, elle est petite, elle est mesquine, elle a l'argent pour principe. Et ça, il le déteste. Naturellement, ça n'est pas la seule raison de son engagement politique. Cet engagement politique, comme chez plusieurs jeunes intellectuels de son époque, de sa génération, a été aussi causé par la guerre de 14-18. Ouais.
Parce que Aragon a connu cette guerre, vous l'avez dit tout à l'heure, il a même connu les deux guerres.
Il est allé à la boucherie, comme un héros d'ailleurs, ouais. Il est arrivé depuis quelques jours au front, il est médecin, il sort de la tranchée, il va sauver un officier, il est laissé pour mort, et il a la croix de guerre dès les premiers jours de son arrivée au front. Aragon avait aussi le sentiment d'être un chevalier du Moyen-Âge, ça réapparaîtra, et les valeurs de dévouement, de sacrifice sont très fortes chez lui. Mais Aragon est révolté non pas seulement par l'horreur qu'il voit sous les yeux et qu'il a décrit plusieurs fois. Comme médecin, il disait, j'étais bouleversé quand il m'a dit ça, qu'il avait tenu dans son cœur un cœur qui donnait ses derniers battements dans la tranchée, dans la boue. L'autre raison plus forte encore qu'il révolte, c'est les mensonges de la classe dirigeante et des intellectuels pendant la guerre de 14-18. Claudel, qui fait une ode au maréchal Joffre en disant « Prenez-les, faites-les tuer, etc. Ouais. » Bon général, Barrès, etc. Même s'il a gardé beaucoup d'affection pour l'un et pour l'autre. Ça le révolte. C'est-à-dire, où sont les droits de l'homme? Où est le respect de la dignité humaine dans cette boucherie où les hommes, comme des insectes, sont écrasés par le feu, le fer, la mitraille, collés au sol? Ça le révolte profondément, ce déni d'humanité et d'humanisme, alors qu'on n'a que les grandes paroles humanistes à la bouche. Ouais.
Dans l'amour révélation que lui apporta Elsa Triolet, le poète devait trouver le sens et la raison de son œuvre. Tout au long d'un cheminement commun d'écriture, de pensée, les livres d'Elsa jouèrent d'ailleurs un rôle d'une ampleur essentielle dans ceux d'Aragon. Il l'avait rencontrée en 1928, un an après son adhésion au PC. Frais émoulu de l'aventure surréaliste, il devait alors apparaître aux yeux d'Elsa comme un jeune homme d'une singulière érudition, épris de contradictions, un certain dandysme ne craignant pas de s'allier chez lui au plus profond mystère de l'âme et du cœur que devait refléter son œuvre.
J'ai retiré ce radium de la pêche blinde, et j'ai brûlé mes doigts à ce feu défendu. Ô paradis cent fois retrouvé, reperdu, tes yeux sont mon Pérou, ma Golconde, mes Indes. Il advint qu'un beau soir, l'univers se brisa sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent. Moi, je voyais briller au-dessus de la mer les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa.
Si je t'ai rendu mourir. est bleu comme il est sur les blés. L'été taille la nuit au tablier des anges. Le ciel n'est jamais bleu comme il est sur les blés. Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur. Tes yeux plus clairs que lui lorsqu'une larme luit. Tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie. Le vert n'est jamais si bleu qu'à sa brisure. Tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie. Le vert n'est jamais si bleu qu'à sa brisure.
Aragon avait tout compris de la politique. Ça n'était pas un intellectuel évaporé ou éthéré.
Ouais.
Et je pense qu'il avait beaucoup réfléchi à ce qu'était la politique réelle, la lutte pour le pouvoir, la tactique, les combines, etc., telles qu'il les avait vues pratiquées par son père ou les amis de son père, Clémenceau ou d'autres. D'ailleurs, écoutez, ça peut vous marquer. Hein. Il a à peu près 15 ans. Il va visiter l'Assemblée nationale, la Chambre des députés à l'époque, et le valet de service, pardon, l'huissier, lui montre un placard au-dessus duquel il y a la lettre A, et il dit, ce sera peut-être le casier de monsieur plus tard. Aragon était passionné par la politique. Il n'a jamais été élu. Ouais. Il n'a jamais exercé de fonction élective, mais même à l'intérieur du Parti communiste, dans le mouvement communiste, dans les rapports avec l'Union soviétique en particulier, il a toujours su habilement manœuvrer pour faire avancer les choses, car c'était son but, dans un sens plus libéral, plus ouvert, plus culturel, sans jamais rompre, avancer sans rompre. Et un certain nombre d'intellectuels, même à l'intérieur du Parti communiste, n'ont pas compris cette tactique d'Aragon.
Est-ce que vous-même, Pierre Jequin, qui l'avait côtoyé, vous l'avez dit, au sein du Parti communiste, est-ce que ça fait partie de vos inspirations dans votre militantisme ?
Sans aucun doute. Ouais. Si j'ai écrit ce livre, qui m'a beaucoup coûté, plus de 1500 pages, j'ai remué beaucoup de documentation, je suis allé dans ses archives, etc., avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, c'était d'abord pour m'acquitter d'une dette.
Ouais.
J'avais abandonné ce livre il y a quelques années, je l'avais entrepris il y a une dizaine d'années, je l'ai abandonné parce que c'est un Himalaya, Aragon, je ne me sentais pas la musculature pour gravir cet Himalaya. Mais je l'ai repris et je suis content de l'avoir achevé parce que ça aurait été un regret de ma vie si je n'y étais pas parvenu. Je lui dois beaucoup. Je vais vous raconter un simple exemple. La première fois que je l'ai longuement rencontré, c'était à la toute fin des années 50, 59, début 60. Je n'ai pas d'agenda de l'époque, donc j'ai pas la date exacte. Le Parti communiste m'avait suggéré vivement d'écrire un pamphlet contre André Malraux, qui était devenu tout récemment ministre
de la Culture.
D'État, ministre de la Culture du général de Gaulle, que nous combattions. Et j'ai dit, mais je voudrais bien rencontrer Aragon, puisqu'avant la guerre, Malraux avait été le compagnon de route des communistes et avait beaucoup travaillé avec Aragon et dans la lutte pour soutenir les républicains espagnols et dans la construction d'une maison de la culture, etc. Et il m'a reçu, bon, il m'a épaté. j'entrais chez Dieu à l'époque. et après m'avoir raconté toutes sortes de choses pendant 2 heures intarissables, c'était un grand metteur en scène en plus, il faut bien le dire.
Ouais.
Il me dit, alors mon petit, tu es venu pour... Alors, je débite mon compliment, il m'écoute.
Mon petit, c'était pour tout le monde, visiblement.
Il le disait aux hommes plus jeunes qu'il estimait.
Ouais.
C'est-à-dire de nombreux hommes. Et c'était un tic de langage qu'il avait, assez affectueux. Donc il savait de quoi il s'agissait naturellement, mais il m'écoute. Et puis il réfléchit un instant, laisse planer un silence. Et du haut de sa haute taille, alors que j'étais assis dans un fauteuil profond, il mettait toujours ses invités, il me dit « Oui ». Mais n'oublie pas que nous fûmes sur les mêmes estrades. J'ai compris qu'il ne fallait pas le faire, et je ne le regrette pas. Merci Louis Aragon. J'ai évité d'accrocher une mauvaise casserole à ma biographie.
Et puis dans le petit parallèle qu'on peut tracer également sur le parcours au sein du Parti communiste, Aragon a quand même été quelqu'un qui a voulu changer son parti de l'intérieur, vous aussi par certains aspects.
Oui.
C'était votre lutte.
Oui. D'ailleurs, je ne sais pas du tout comment les choses se seraient passées au moment de l'effondrement du régime communiste en URSS et dans les pays de l'Est. Il n'a pas vécu cela. Il est mort en 1982, à Noël. Je crois que ça a été son objectif. Il était très fidèle à son engagement. Fidélissime. D'ailleurs, la fidélité était pour lui une valeur en soi. Et d'autre part, son engagement n'était pas un engagement simplement de panache ou d'émotion ou de paraître. C'était un engagement reposant sur une pensée construite, l'étude du marxisme, j'ai montré dans un chapitre assez nouveau sur ce point, une réflexion sur la politique, etc. Et il voyait bien que quelque chose n'allait pas dans ce mouvement. C'était ce qu'il appelait, et qu'on appelle encore, l'ouvriérisme. Une façon de mettre un peu les intellectuels en marge ou de leur imposer des normes qui ne correspondent pas à ce qu'est la création littéraire ou artistique. Mais il s'était dit, je les ferai bouger. Je les ferai bouger de l'intérieur. C'est un pari qu'il avait fait avec son ami surréaliste André Breton. Ils finiront par applaudir Lautréamont. Il a... Dans une certaine mesure, gagner cette bataille, mais c'était un peu tard, c'était dans les années 60.
Est-ce que vous-même, au moment où vous avez décidé de vous présenter au présidentiel en 88, il y avait encore la petite voix d'Aragon avec cette volonté de changer les choses ?
Oui, mais je ne veux pas le faire parler.
Ouais, bien sûr.
Je ne sais pas du tout s'il m'aurait soutenu, je ne suis pas sûr. Parce qu'il était aussi très attaché à l'organisation communiste. Ça avait été toute sa vie, c'était un homme plus âgé, n'avions pas la même histoire. Moi, j'ai adhéré au Parti communiste à la sortie de la résistance, à la libération. Lui a fait toute l'histoire, Front populaire, illégalité, résistance, libération, ça marquait profondément ces hommes. Donc je ne fais pas parler Aragon à ma place. Mais j'ai pensé que j'étais dans la ligne qu'il m'avait enseignée, je dirais aragonienne.
Et puis on le comprend également en lisant votre livre, Aragon a quand même été un témoin central du XXe siècle. On l'a dit tout à l'heure, il a connu la Première Guerre mondiale, il a connu la Deuxième Guerre mondiale, donc peu nombreux sont quand même les gens qui ont connu les deux guerres de près en plus. Il a connu la guerre froide également par la suite, à chaque fois aux premières loges.
Franchement, je pense que c'est l'essentiel qui m'a tenu dans ce travail. C'est-à-dire que ça ne concerne pas que les communistes ou les anciens communistes ou les historiens. Ça concerne tous les Français. Il appartient à notre patrimoine commun parce qu'il est d'abord un immense écrivain, un des plus grands poètes, mis en musique par le plus grand nombre de musiciens, devant Hugo, le Hugo du XXe siècle. Mais aussi parce qu'il est un acteur et un témoin exceptionnel qui a dit comme personne la tragédie de ce XXe siècle qui a été à la fois grand, beau et terrible.
Ouais. Vous parliez de Victor Hugo tout à l'heure. Il y a des parallèles aussi à faire avec Victor Hugo.
Ouais. Il l'a voulu. Il a écrit lui-même. J'ai intitulé un chapitre, le mot vaut ce qu'il vaut, Ego Hugo. il a voulu être le Hugo du XXe siècle. Il connaissait des vers de Hugo par cœur. Enfin, que ne connaissait-il
Oui, c'est ça, il connaissait tout le monde.
Une mémoire fantastique, une culture. Il était une bibliothèque du XIXe siècle en particulier, mais aussi des Lumières. Et une bibliothèque pas seulement française, mais anglaise, américaine, russe, italienne. C'était prodigieux.
Ouais. L'éducation, évidemment, a fait beaucoup, puisque vous le disiez tout
l'éducation
à l'heure.
L'éducation a fait beaucoup.
À 14 ans, il avait écrit une vingtaine de romans déjà.
70
romans,
enfin,
ben voilà.
À peu près.
Ouais. Ben voilà, il sortait beaucoup, il allait au spectacle, il allait au théâtre, très jeune.
Et il avait médité toutes les orientations de la culture. Il a été un chrétien convaincu avant de devenir un athée virulent et ensuite d'aboutir à ce fameux poème, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, accompagné d'un écrit théorique malheureusement très ignoré, qui s'appelle « La conjonction et », qu'il a écrit au plus noir de l'occupation allemande en France, et où il dit il y a deux grands courants dans la pensée française, le courant matérialiste, athée, Diderot, et le courant chrétien. Les deux ont formé la France, il faut qu'ils construisent ensemble un humanisme nouveau. Il fera la même démarche avec l'islam plus tard, dans ce prodigieux ensemble poétique qu'il a appelé le « Fou d'Elsa », et qui est encore très difficile à déchiffrer, et dans lequel, au lieu de concevoir, comme on le dit souvent aujourd'hui, hélas, le conflit des civilisations, le choc des civilisations, il montre que l'islam, le marxisme, le christianisme, la civilisation européenne et la civilisation arabe doivent se dépasser ensemble, tout en créant ensemble une culture, un humanisme formé de toute la complexité que chacune d'elles apporte.
Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saisons que par la douleur. Aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse.
Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée.
Toutes les misères du monde,
c'est pas mon amour que j'y crois.
Oh, mais le jeu porte ma croix, et de leur nuit, ma nuit se fonde.
Ensanglantés.